Chapitre 6. La protectrice et le protégé, le médecin malgré lui. Il est temps de revenir à Gilbert, dont une exclamation imprudente de sa protectrice, Mademoiselle Chon, nous a appris la fuite et voilà tout. Depuis qu'au village de La Chaussée, il avait, dans les préliminaires du duel de Philippe de Tavernet avec le vicomte du Barry, appris le nom de sa protectrice, notre philosophe avait été fort refroidi dans son admiration. Souvent, à Tavernet, alors que caché au milieu d'un massif ou derrière une charmille, il suivait ardemment des yeux André, se promenant avec son père, souvent, disons-nous, il avait entendu le baron s'expliquer catégoriquement sur le compte de Madame du Barry. La haine, tout intéressée, du vieux Tavernet, dont nous connaissons les vices et les principes, avait trouvé une certaine sympathie dans le cœur de Gilbert. Cela venait de ce que Mademoiselle André ne contredisait en aucune façon le mal que le baron disait de Madame du Barry, car il faut bien que nous le disions, le nom de Madame du Barry était un nom fort méprisé en France. Enfin, ce qui avait rangé complètement Gilbert au parti du baron, c'est que plus d'une fois il avait entendu Nicole s'écrier « Ah, si j'étais Madame du Barry !» Tout le temps que dura le voyage, Chon était trop occupé et de choses trop sérieuses pour faire attention au changement d'humeur que la connaissance de ses compagnons de voyage avait amené chez Monsieur Gilbert. Elle arriva donc à Versailles, ne songeant qu'à faire tourner au plus grand bien du vicomte le coup d'épée de Philippe qui ne pouvait tourner à son plus grand honneur. Quant à Gilbert, à peine entré dans la capitale, sinon de la France, du moins de la monarchie française, il oublia toute mauvaise pensée pour se laisser aller à une franche admiration. Versailles, majestueux et froid avec ses grands arbres, dont la plupart commençaient à sécher et à périr de vieillesse, pénétra Gilbert de ce sentiment de religieuse tristesse dont nul esprit bien organisé ne peut se défendre en présence des grands ouvrages élevés par la persévérance humaine ou créés par la puissance de la nature. Il résulta de cette impression inusitée chez Gilbert, et contre laquelle son orgueil inné se roidissait en vain, que pendant les premiers instants, la surprise et l'admiration le rendirent silencieux et souple. Le sentiment de sa misère et de son infériorité l'écrasait. Il se trouvait bien pauvrement vêtu auprès de ses seigneurs chamarrés d'or et de cordons, bien petit près des Suisses, bien chancelant quand, avec ses gros souliers ferrés, il fallut marcher sur les parquets de mosaïque et sur les marbres poncés et cirés des galeries. Alors il sentit que le secours de sa protectrice lui était indispensable pour faire de lui quelque chose. Il se rapprocha d'elle pour que les gardes vissent bien qu'il venait avec elle, mais ce fut ce besoin même qu'il avait eu de Chon qu'avec la réflexion qui lui revint bientôt, il ne put lui pardonner. Nous savons déjà, car nous l'avons vu dans la première partie de cet ouvrage, que Madame du Barry habitait à Versailles un bel appartement, autrefois habité par Madame Adélaïde. L'or, le marbre, les parfums, les tapis, les dentelles enivrèrent d'abord Gilbert, nature sensuelle par instinct, esprit philosophique par volonté. Et ce ne fut que lorsqu'il y était déjà depuis longtemps qu'enivré d'abord par la réflexion de tant de merveilles qui avaient ébloui son intelligence, il s'aperçut enfin qu'il était dans une petite mansarde tendue de serge, qu'on lui avait servi un bouillon, un reste de gigot et un pot de crème, et que le valet, en les servant, lui avait dit d'un ton de maître « Restez ici !» puis s'était retiré. Cependant, un dernier coin du tableau, il est vrai que c'était le plus magnifique, tenait encore Gilbert sous le charme. On l'avait logé dans les combles, nous l'avons dit, mais de la fenêtre de sa mansarde, il voyait tout le parc émaillé de marbre. Il apercevait les eaux couvertes de cette croûte verdâtre qui étendait sur elle l'abandon où on les avait laissées, et par-delà les cimes des arbres, frémissantes comme les vagues de l'océan, les plaines d'Yprès et les horizons bleus des montagnes voisines. La seule chose à laquelle songea Gilbert en ce moment fut donc que, comme les premiers seigneurs de France, sans être ni courtisans ni laquais, sans aucune recommandation de naissance et sans aucune bassesse de caractère, ils logeaient à Versailles, c'est-à-dire dans le palais du roi. Pendant que Gilbert faisait son petit repas, fort bon d'ailleurs s'il le comparait à ceux qu'il avait l'habitude de faire, et pour son dessert regardait par la fenêtre de la mansarde, Chon pénétrait, on se le rappelle, près de sa sœur, lui glissait tout bas à l'oreille que sa commission près de madame de Béarn était remplie, et lui annonçait tout haut l'accident arrivé à son frère à l'auberge de la Chaussée, accident que, malgré le bruit qu'il avait fait à sa naissance, nous avons vu aller se perdre et se mourir dans le gouffre où devaient se perdre tant d'autres choses plus importantes, l'indifférence du roi. Gilbert était plongé dans une de ces rêveries qui lui étaient familières en face des choses qui passaient la mesure de son intelligence ou de sa volonté lorsqu'on vint le prévenir que Mademoiselle Chon l'invitait à descendre. Il prit son chapeau, le brossa, compara du coin de l'œil son habit râpé à l'habit neuf du laquais, et tout en se disant que l'habit de ce dernier était un habit de livrée, il n'en descendit pas moins, tout rougissant de honte de se trouver si peu en harmonie avec les hommes qu'il coudoyait et avec les choses qui passaient sous ses yeux. Chon descendait en même temps que Gilbert dans la cour, seulement elle descendait, elle, par le grand escalier, lui par une espèce d'échelle de dégagement. Une voiture attendait. C'était une espèce de phaéton bas à quatre places, pareil à peu près à cette petite voiture historique dans laquelle le grand roi promenait à la fois madame de Montespan, madame de Fontanges et souvent même la reine. Chon y monta et s'installa sur la première banquette avec un gros coffret et un petit chien. Les deux autres places étaient destinées à Gilbert et à une espèce d'intendant nommé Monsieur Grange. Gilbert s'empressa de prendre place derrière Chon pour maintenir son rang. L'intendant, sans faire de difficultés, sans y songer même, prit place à son tour derrière le coffret et le chien. Comme Mademoiselle Chon, semblable pour l'esprit et le cœur à tout ce qui habitait à Versailles, se sentait joyeuse de quitter le grand palais pour respirer l'air des bois et des prés, elle devint communicative et, à peine sortie de la ville, se tournant à demi, « Eh bien, dit-elle, comment trouvez-vous Versailles, monsieur le philosophe ?»« Fort beau, madame, mais le quittons-nous déjà ?»« Oui, nous allons chez nous cette fois. »« C'est-à-dire chez vous, madame, dit Gilbert, du ton d'un ours qui s'humanise. »« C'est ce que je voulais dire. Je vous montrerai à ma sœur, tâchez de lui plaire. C'est à quoi s'attachent en ce moment les plus grands seigneurs de France. » À propos, monsieur Grange, vous ferez faire un habit complet à ce garçon. Gilbert rougit jusqu'aux oreilles. Quel habit, madame? Demanda l'intendant. La livrée ordinaire? Gilbert bondit sur sa banquette. La livrée? S'écria-t-il en lançant à l'intendant un regard féroce. Non pas, vous ferez faire, je vous dirai cela, j'ai une idée que je veux communiquer à ma sœur, veillez seulement à ce que cet habit soit prêt en même temps que celui de Zamore. Bien, madame, connaissez-vous Zamore? Demanda Chon à Gilbert, que tout ce dialogue rendait fort effaré. Non, madame, dit-il, je n'ai pas cet honneur. C'est un petit compagnon que vous aurez, et qui va être gouverneur du château de Lucienne. Faites-vous son ami, c'est une bonne créature, au fond, que Zamore, malgré sa couleur. Gilbert fut prêt de demander de quelle couleur était Zamore, mais il se rappela la morale que Chon lui avait faite à propos de la curiosité, et de peur d'une seconde mercuriale, il se contint. Je tâcherai, se contenta-t-il de répondre avec un sourire plein de dignité. On arriva à Lucienne. Le philosophe avait tout vu, la route fraîchement plantée, les coteaux ombreux, le grand aqueduc qui semble un ouvrage romain, les bois de châtaigniers à l'épais feuillage, et puis enfin ce magnifique coup d'œil de plaine et de bois qui accompagne dans leur fuite vers maison les deux rives de la Seine. C'est donc là, se dit Gilbert en lui-même, ce pavillon qui a coûté tant d'argent à la France au dire de monsieur le baron de Tavernet. Des chiens joyeux, des domestiques empressés accoururent pour saluer Chon, interrompirent Gilbert au milieu de ses réflexions aristocratico-philosophique. Ma sœur est-elle donc rentrée? Demanda Chon. Non, madame, mais on l'attend. Qui cela? Mais monsieur le chancelier, monsieur le lieutenant de police, monsieur le duc d'Aiguillon. Bien, courez vite m'ouvrir le cabinet de Chine. Je veux être la première à voir ma sœur. Vous la préviendrez que je suis là, entendez-vous? Ah, Sylvie, continua Chon, s'adressant à une espèce de femme de chambre qui venait de s'emparer du coffret et du petit chien, donnez le coffret et mise à pouf à monsieur Grange et conduisez mon petit philosophe près de Zamor. Mademoiselle Sylvie regarda autour d'elle, cherchant sans doute de quelle sorte d'animal Chon voulait parler, mais ses regards et ceux de sa maîtresse s'étant arrêtés en même temps sur Gilbert, Chon fit signe que c'était du jeune homme qu'il était question. Venez, dit Sylvie. Gilbert, de plus en plus étonné, suivit la femme de chambre, tandis que Chon, légère comme un oiseau, disparaissait par une de ces portes latérales qui entouraient le pavillon. Sans le ton impératif avec lequel Chon lui avait parlé, Gilbert eût pris bien plutôt Mademoiselle Sylvie pour une grande dame que pour une femme de chambre. En effet, elle ressemblait bien plus pour le costume à André qu'à Nicole. Elle prit Gilbert par la main en lui adressant un gracieux sourire, car les paroles de Mademoiselle Chon indiquaient à l'endroit du nouveau venu, sinon l'affection, du moins le caprice. C'était, Mademoiselle Sylvie, bien entendu, une grande et belle fille aux yeux bleu foncé, au teint blanc, légèrement taché de rousseur, aux magnifiques cheveux d'un blond ardent. Sa bouche fraîche et fine, ses dents blanches, son bras potelé, firent sur Gilbert une de ces impressions sensuelles auxquelles il était si accessible et qui lui rappela, par un doux frémissement, cette lune de miel dont avait parlé Nicole. Les femmes s'aperçoivent toujours de ces choses-là. Mademoiselle Sylvie s'en aperçut donc, et en souriant, « Comment vous appelle-t-on, monsieur ? » dit-elle. « Gilbert, mademoiselle, » répondit notre jeune homme avec une voix assez douce. « Eh bien, monsieur Gilbert, venez faire la connaissance avec le seigneur Zamor. »« Avec le gouverneur du château de Lucienne ?»« Avec le gouverneur. » Gilbert étira ses bras, brossa son habit avec une manche et passa son mouchoir sur ses mains. Il était assez intimidé, au fond, de paraître devant un personnage si important. Mais il se rappelait ces mots, « Zamor est une bonne créature » et ces mots le rassuraient. Il était déjà ami d'une comtesse, ami d'un vicomte, il allait être l'ami d'un gouverneur. Et pensa-t-il, calomnierait-on la cour qu'il est si facile d'y avoir des amis? Ces gens-là sont hospitaliers et bons, j'imagine. Sylvie ouvrit la porte d'une antichambre qui semblait bien plutôt un boudoir. Les panneaux en étaient d'écailles incrustées de cuivre doré. On eût dit l'atrium de Lucullus, si ce n'est que chez l'ancien Romain, les incrustations étaient d'or pur. Là, sur un immense fauteuil, enfoui sous des coussins, se reposait, les jambes croisées, en grignotant des pastilles de chocolat, le seigneur Zamor, que nous connaissons, mais que Gilbert ne connaissait pas. Aussi l'effet que lui produisit l'apparition du futur gouverneur de Lucienne se traduisit-il d'une façon assez curieuse sur le visage du philosophe. « Oh ! s'écria-t-il, en contemplant avec saisissement l'étrange figure, car c'était la première fois qu'il voyait un nègre. « Oh ! Qu'est-ce que ceci ?» Quant à Zamor, il ne leva même pas la tête et continua de grignoter ses pralines en roulant des yeux blancs de plaisir. « Ceci, répondit Sylvie, c'est monsieur Zamor. »« Lui ? Fit Gilbert stupéfait. » « Sans doute, » répliqua Sylvie, riant malgré elle de la tournure que prenait cette scène. « Le gouverneur, » continua Gilbert, ce magot gouverneur du château de Lucienne. Allons donc, mademoiselle, vous vous moquez de moi. » À cette apostrophe, Zamor se redressa, montrant ses dents blanches. « Moi, gouverneur, » dit-il, « moi, pas magot. » Gilbert promena de Zamor à Sylvie un regard inquiet qui devint courroucé lorsqu'il vit la jeune femme éclater de rire malgré les efforts qu'elle faisait pour se contenir. Quant à Zamor, grave et impassible comme un fétiche indien, il replongea sa griffe noire dans le sac de satin et reprit ses grignotements. En ce moment, la porte s'ouvrit et M. Grange entra, suivi d'un tailleur. Voici, dit-il en désignant Gilbert, la personne pour qui sera l'habit. Prenez la mesure, ainsi que je vous ai expliqué qu'elle devait être prise. Gilbert tendit machinalement ses bras et ses épaules, tandis que Sylvie et M. Grange causaient au fond de la chambre et que Mlle Sylvie riait de plus en plus à chaque mot que lui disait l'intendant. « Ah, ce sera charmant !» dit Mlle Sylvie. « En aura-t-il le bonnet pointu, comme Sganarelle ?» Gilbert n'écouta même pas la réponse. Il repoussa brusquement le tailleur et ne voulut à aucun prix se prêter au reste de la cérémonie. Il ne connaissait pas Sganarelle, mais le nom et surtout les rires de Mlle Sylvie lui indiquaient que ce devait être un personnage éminemment ridicule. C'est bon, dit l'intendant au tailleur, ne lui faites pas violence, vous en savez assez, n'est-ce pas? Certainement, répondit le tailleur, d'ailleurs, l'ampleur ne nuit jamais à ces sortes d'habits, je le tiendrai large. Sur quoi, Mlle Sylvie, l'intendant et le tailleur partirent, en laissant Gilbert en tête à tête avec le négrillon, qui continuait de grignoter ses pralines et de rouler ses yeux blancs. Que d'énigmes pour le pauvre provincial, que de craintes, que d'angoisses, surtout pour le philosophe qui voyait ou croyait voir sa dignité d'homme plus clairement compromise encore à Lucienne qu'à Tavernet. Cependant, il essaya de parler à Zamor. Il lui était venu à l'idée que c'était peut-être quelque prince indien, comme il en avait vu dans les romans de M. Crébillon fils, mais... Le prince indien, au lieu de lui répondre, s'en alla devant chaque glace admirer son magnifique costume, comme fait un fiancé de son habit de noces, puis se mettant à califourchon sur une chaise à roulettes à laquelle il donna l'impulsion avec ses pieds, il fit une dizaine de fois le tour de l'antichambre avec une vélocité qui prouvait l'habitude approfondie qu'il avait faite de cet ingénieux exercice. Et tout à coup, une sonnette retentit. Zamor quitta sa chaise, qu'il laissa à l'endroit où il l'a quittée, et s'élança par une des portes de l'antichambre dans la direction du bruit de cette sonnette. Cette promptitude à obéir au timbre argentin acheva de convaincre Gilbert que Zamor n'était point un prince. Gilbert eut un instant l'envie de sortir par la même porte que Zamor, mais en arrivant au bout du couloir qui donnait dans un salon, il aperçut tant de cordons bleus et tant de cordons rouges, le tout gardé par des valets si effrontés, si insolents, si tapageurs, qu'il sentit un frisson courir par ses veines et que, la sueur au front, il rentra dans son antichambre. Une heure s'écoula ainsi. Zamor ne revenait pas. Mlle Sylvie était toujours absente. Gilbert appelait de tous ses désirs un visage humain quelconque, fût-ce celui de l'affreux tailleur qui allait instrumenter la mystification inconnue dont il était menacé. Au bout de 7 heures, la porte par laquelle il était entré se rouvrit et un laquais parut qui lui dit « Venez ». Gilbert se sentait désagréablement affecté d'avoir à obéir à un laquais. Néanmoins, comme il s'agissait sans doute d'un changement dans son état et qu'il lui semblait que tout changement lui devait être avantageux, il se hâta. Mademoiselle Chon, libre enfin de toute négociation, après avoir mis sa belle-sœur au courant de sa mission auprès de Madame de Béarn, déjeunait fort à l'aise dans un beau déshabillé du matin, près d'une fenêtre, à la hauteur de laquelle montaient les acacias et les marronniers du plus prochain quinconce. Elle mangeait de fort bon appétit, et Gilbert remarqua que cet appétit était justifié par un salmi de faisan et par une galantine aux truffes. Le philosophe Gilbert, introduit auprès de Mlle Chon, chercha des yeux sur le guéridon la place de son couvert. Il s'attendait à une invitation. Mais Chon ne lui offrit même pas un siège. Elle se contenta de jeter un coup d'œil sur Gilbert, puis, ayant avalé un petit verre de vin couleur de topaze, « Voyons, mon cher médecin, où en êtes-vous avec Zamor ?» dit-elle. « J'en suis ?» demanda Gilbert. « Sans doute, j'espère que vous avez fait connaissance. Comment voulez-vous que je fasse connaissance avec une espèce d'animal qui ne parle pas et qui, lorsqu'on lui parle, se contente de rouler les yeux et de montrer les dents ?»« Ah, vous m'effrayez, répondit Schontz en discontinuer son repas et sans que l'air de son visage correspondît aucunement à ses paroles. Vous êtes donc bien revêche en amitié? L'amitié suppose l'égalité, mademoiselle. Ah, belle Maxime, dit Schontz, alors vous ne vous êtes pas cru l'égal de Zamor? C'est-à-dire, reprit Gilbert, que je n'ai pas cru qu'il fût le mien. En vérité, dit Schontz, comme se parlant à elle-même, il est ravissant. Puis, se retournant vers Gilbert, dont elle remarqua l'air rogue, vous disiez donc, cher docteur, ajouta-t-elle, que vous donnez difficilement votre cœur. Très difficilement, madame. Alors, je me trompais quand je me flattais d'être de vos amies et des bonnes. J'ai beaucoup de penchant pour vous, personnellement, madame, dit Gilbert avec roideur, mais, ah, grand merci pour cet effort, vous me comblez, et combien de temps faut-il, mon beau dédaigneux, pour qu'on obtienne vos bonnes grâces? Beaucoup de temps, madame, il y a même des gens qui, quelque chose qu'ils fassent, ne les obtiendront jamais. Ah, cela m'explique comment, après être resté 18 ans dans la maison du baron de Tavernet, vous l'avez quitté tout à coup. Les Tavernet n'avaient pas eu la chance de se mettre dans vos bonnes grâces. C'est cela, n'est-ce pas? Gilbert rougit. Eh bien, vous ne répondez pas, continua Schontz. Que voulez-vous que je vous réponde, madame, si ce n'est que toute amitié et toute confiance doivent se mériter? Peste, il paraîtrait en ce cas que les hôtes de Tavernet n'avaient mérité ni cette amitié, ni cette confiance. Tous, non, madame. Et que vous avez fait ceux qui ont eu le malheur de vous déplaire? Je ne plains pas, madame, dit fièrement Gilbert. Allons, allons, fichon, je vois que moi aussi, je suis exclu de la confiance de monsieur Gilbert. Ah, ce n'est pourtant pas l'envie de la conquérir qui me manque, c'est l'ignorance où je suis des moyens que l'on doit employer. Gilbert se pinça les lèvres. Bref, ces Tavernet n'ont pas su vous contenter, ajouta Schontz avec une curiosité dont Gilbert sentit la tendance. Dites-moi donc un peu ce que vous faisiez chez eux. Gilbert fut assez embarrassé, car il ne savait pas lui-même ce qu'il faisait à Tavernet. Madame, dit-il, j'étais homme de confiance. À ces mots, prononcés avec le flegme philosophique qui caractérisait Gilbert, Schontz fut prise d'un tel accès de rire qu'elle s'en renversa sur sa chaise en éclatant. « Vous en doutez ?» dit Gilbert en fronçant le sourcil. « Oh Dieu m'en garde ! Savez-vous, mon cher ami, que vous êtes féroce et que l'on ne peut rien vous dire ? Je vous demandais quels gens étaient ces Tavernet, ce n'est point pour vous désobliger, mais bien plutôt pour vous servir, en vous vengeant. »« Je ne me venge pas, madame, ou je me venge moi-même, madame. » « Très bien, nous avons nous-mêmes un grief contre les Tavernet. » Puisque de votre côté vous en avez un, et même peut-être plusieurs, nous sommes donc naturellement alliés. Vous vous trompez, madame, ma façon de me venger ne peut avoir aucun rapport avec la vôtre, car vous parlez des Tavernet en général, et moi j'admets différentes nuances dans les divers sentiments que je leur porte. Et monsieur Philippe de Tavernet, par exemple, est-il dans les nuances sombres ou dans les nuances tendres? « Je n'ai rien contre monsieur Philippe. Monsieur Philippe ne m'a jamais fait ni bien ni mal. Je ne l'aime ni ne le déteste. Il m'est tout à fait indifférent. »« Alors vous ne déposeriez pas devant le roi ou devant monsieur de Choiseul contre monsieur Philippe de Tavernet ?»« À quel propos ?»« À propos de son duel avec mon frère. »« Je dirais ce que je sais, madame, si j'étais appelé à déposer. »« Et que savez-vous ?» La vérité? Voyons, qu'appelez-vous la vérité? C'est un mot bien plastique. Jamais pour celui qui sait distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste. Hein, je comprends, le bien c'est monsieur Philippe de Tavernet, le mal c'est monsieur le vicomte du Barry. Oui, madame, à mon avis, et selon ma conscience du moins. « Ah, voilà ce que j'ai recueilli en chemin, » dit Schontz avec aigreur, « et voilà comment me récompense celui qui me doit la vie. »« C'est-à-dire, madame, celui qui ne vous doit pas la mort. »« C'est la même chose. »« C'est bien différent, au contraire. »« Comment cela? Je ne vous dois pas la vie. Vous avez empêché vos chevaux de meloter, voilà tout. Et encore, ce n'est pas vous, c'est le postillon. Chon regardait fixement le petit logicien qui marchandait si peu avec les termes. J'aurais attendu, dit-elle en adoucissant son sourire et sa voix, un peu plus de galanterie de la part d'un compagnon de voyage qui savait si bien, pendant la route, trouver mon bras sous son coussin ou mon pied sur son genou. Chon était si provocante avec cette douceur et cette familiarité que Gilbert oublia Zamore, le tailleur et le déjeuner auquel on avait oublié de l'inviter. Allons, allons, nous voilà redevenus gentils, dit Chon en prenant le menton de Gilbert dans sa main. Vous témoignerez contre Philippe de Tavernay, n'est-ce pas? Oh, pour cela non, fit Gilbert, jamais. Mais pourquoi donc entêté? Parce que monsieur le vicomte Jean a eu tort. Et en quoi a-t-il eu tort, s'il vous plaît? En insultant la dauphine, tandis qu'au contraire, monsieur Philippe de Tavernay, eh bien, avait raison en la défendant. Ah, nous tenons pour la dauphine, à ce qu'il paraît. Non, je tiens pour la justice. Ah, vous êtes un fou, Gilbert. Taisez-vous, qu'on ne vous entende pas parler ainsi dans ce château. Alors, dispensez-moi de répondre quand vous m'interrogerez. Ah, changeons de conversation dans ce cas. Gilbert s'inclina en signe d'assentiment. Ça, petit garçon, demanda la jeune femme d'un ton de voix assez dur. Que comptez-vous faire ici, si vous ne vous y rendez pas agréable? Faut-il me rendre agréable en me parjurant? Mais où donc allez-vous prendre tous ces grands mots-là? Dans le droit que chaque homme a de rester fidèle à sa conscience. Bah, dit Chon, quand on sert un maître, ce maître assume sur lui toute responsabilité. Je n'ai pas de maître, grommela Gilbert. Et au train dont vous allez, petit niais, dit Chon, en se levant comme une belle paresseuse, vous n'aurez jamais de maîtresse. Maintenant, je répète ma question. Répondez-y catégoriquement. Que comptez-vous faire chez nous? Je croyais qu'il n'était pas besoin de se rendre agréable quand on pouvait se rendre utile. Et vous vous trompez. On ne rencontre que des gens utiles et nous en sommes là. Alors, je me retirerai. Vous vous retirerez. Eh oui, sans doute, je n'ai point demandé à venir, n'est-ce pas? Je suis donc libre. Libre! S'écria Chon, qui commençait à se mettre en colère de cette résistance à laquelle elle n'était pas habituée. Oh, que non! La figure de Gilbert se contracta. Allons, allons, dit la jeune femme, qui vit au froncement de sourcils de son interlocuteur qu'il ne renonçait pas facilement à sa liberté. Alors, la paix, vous êtes un joli garçon, très vertueux, et en cela vous serez très divertissant, ne fût-ce que par le contraste que vous ferez avec tout ce qui nous entoure. Seulement, gardez votre amour pour la vérité. Sans doute, je le garderai, dit Gilbert. Oui, mais nous entendons la chose de deux façons différentes. Je dis, gardez-le pour vous et n'allez pas célébrer votre culte dans les corridors du Trianon ou dans les antichambres de Versailles. Fit Gilbert. Il n'y a pas de hum. Vous n'êtes pas si savant, mon petit philosophe, que vous ne puissiez apprendre beaucoup de choses d'une femme. Et d'abord, premier axiome, on ne ment pas en se taisant. Retenez bien ceci. Mais si l'on m'interroge, qui cela? Êtes-vous fou, mon ami? Bon Dieu, qui songe donc à vous au monde, si ce n'est moi? Vous n'avez pas encore d'école, ce me semble, monsieur le philosophe. L'espèce dont vous faites partie est encore rare. Il faut courir les grands chemins et battre les buissons pour trouver vos pareils. Vous demeurerez avec moi, et je ne vous donne pas 4 fois 24 heures pour que nous vous voyions transformés en courtisan parfait. J'en doute. Répondit impérieusement Gilbert. Chon haussa les épaules. Gilbert sourit. Mais brisons-la, reprit Chon. D'ailleurs, vous n'avez besoin de plaire qu'à 3 personnes. Et ces 3 personnes sont le roi, ma sœur et moi. Que faut-il faire pour cela? Vous avez vu Zamore? Demanda la jeune femme, évitant de répondre directement à la question. Ce nègre, fit Gilbert avec un profond mépris. Oui, ce nègre. Que puis-je avoir de commun avec lui? Tâchez que ce soit la fortune, mon petit ami. Ce nègre a déjà 2 000 livres de rente sur la cassette du roi. Il va être nommé gouverneur du château de Lucienne, et tel qui arrive de ses grosses lèvres et de sa couleur, lui fera la cour, l'appellera monsieur et même monseigneur. Ce ne sera pas moi, madame, fit Gilbert. Allons donc, dit Chon, je croyais qu'un des premiers préceptes des philosophes était que tous les hommes sont égaux. C'est pour cela que je n'appellerai pas à mort mon seigneur. Chon était battu par ses propres armes. Elle se mordit les lèvres à son tour. Ainsi, vous n'êtes pas ambitieux, dit-elle. Si fait, dit Gilbert, les yeux étincelants. Au contraire. Et votre ambition, si je me souviens bien, était d'être médecin. Je regarde la mission de porter secours à ses semblables comme la plus belle qu'il y ait au monde. Eh bien, votre rêve sera réalisé. Comment cela ? Vous serez médecin, et médecin du roi même. Moi, s'écria Gilbert, moi, qui n'ai même pas les premières notions de l'art médical, vous riez, madame. Eh, Zamor, sait-il ce que c'est qu'une herse, qu'un machicouli, qu'une contrescarpe ? Non, vraiment, il l'ignore et ne s'en inquiète pas, ce qui n'empêche pas qu'il ne soit gouverneur du château de Lucienne, avec tous les privilèges attachés à ce titre. « Ah oui, oui, je comprends, dit amèrement Gilbert, vous n'avez qu'un bouffon, ce n'est point assez, le roi s'ennuie, il lui en faut deux. »« Bien, s'écria Chon, le voilà qui reprend sa mine allongée. En vérité, vous vous rendez laid à faire plaisir, mon petit homme, regardez toutes ces mines fantasques pour le moment où la perruque sera sur votre tête et le chapeau pointu sur la perruque, alors au lieu d'être laid, ce sera comique. » Gilbert fronça une seconde fois le sourcil. « Voyons, dit Chon, je pouvais bien accepter le poste de médecin du roi quand monsieur le duc de Trèmes sollicite le titre de sapajou de ma sœur. » Gilbert ne répondit rien. Chon lui fit l'application du proverbe « qui ne dit rien consent ». « Pour preuve que vous commencez d'être en faveur, dit Chon, vous ne mangerez point aux offices. »« Ah, merci, madame, répondit Gilbert. Non. » J'ai donné des ordres à ce sujet. Et où mangerai-je ? Vous partagerez le couvert de Zamor. Moi ? Sans doute, le gouverneur et le médecin du roi peuvent bien manger à la même table. Allez donc dîner avec lui si vous voulez. Je n'ai pas faim, répondit rudement Gilbert. Très bien, dit Chon avec tranquillité. Vous n'avez pas faim maintenant, mais vous aurez faim ce soir. Gilbert secoua la tête. « Si ce n'est ce soir, ce sera demain, après-demain. Ah, vous vous adoucirez, monsieur le rebelle. Et si vous nous donnez trop de mal, nous avons monsieur le correcteur des pages qui est à notre dévotion. » Gilbert frissonna et pâlit. « Rendez-vous donc près du seigneur Zamor, dit Chon, avec sévérité. Vous ne vous en trouverez pas mal, la cuisine est bonne, mais prenez garde d'être ingrat, car on vous apprendrait la reconnaissance. » Gilbert baissa la tête. Il en était ainsi chaque fois que, au lieu de répondre, il venait de se résoudre à agir. Le laquais qui avait emmené Gilbert attendait sa sortie. Il le conduisit dans une petite salle à manger attenant à l'antichambre où il avait été introduit. Zamor était à table. Gilbert alla s'asseoir à côté de lui, mais on ne put le forcer à manger. 3 heures sonnèrent. Madame du Barry partit pour Paris. Chon, qui devait la rejoindre plus tard, donna des instructions pour qu'on apprivoisât son ours. Force entre mes sucrés, s'il faisait bon visage, force menace suivie d'une heure de cachot, s'il continuait à se rebeller. À 4 heures, on apporta dans la chambre de Gilbert le costume complet du médecin malgré lui. Bonnet pointu, perruque, juste au corps noir, robe de même couleur, on y avait joint la collerette, la baguette et le gros livre. Le laquais, porteur de cette défroque, lui montra, l'un après l'autre, chacun de ses objets. Gilbert ne témoigna aucune intention de résister. Monsieur Grange entra derrière le laquais et lui apprit comment on devait mettre les différentes pièces du costume. Gilbert écouta patiemment toute la démonstration de Monsieur Grange. « Je croyais, dit seulement Gilbert, que les médecins portaient autrefois une écritoire et un petit rouleau de papier. « Ah, ma foi, il a raison, dit Monsieur Grange. Cherchez-lui une longue écritoire qu'il se pendra à la ceinture. Avec plume et papier, cria Gilbert, je tiens à ce que le costume soit complet. Le laquais s'élança pour exécuter l'ordre donné. Il était chargé en même temps de prévenir Mademoiselle Chon de l'étonnante bonne volonté de Gilbert. Mademoiselle Chon fut si ravie qu'elle donna au messager une petite bourse contenant 8 écus et destinée à être attachée avec l'encrier à la ceinture de ce médecin modèle. Merci, dit Gilbert à qui l'on apporta le tout. Maintenant, veut-on me laisser seul afin que je m'habille ? Alors dépêchez-vous, dit M. Granche, afin que mademoiselle puisse vous voir avant son départ pour Paris. Une demi-heure, dit Gilbert, je ne demande qu'une demi-heure. Trois quarts d'heure s'il le faut, monsieur le docteur, dit l'intendant en fermant la porte de Gilbert aussi soigneusement que si c'eût été de sa caisse. Gilbert s'approcha de cette porte sur la pointe des pieds, écouta pour s'assurer que les pas s'éloignaient, puis il se glissa jusqu'à la fenêtre qui donnait sur des terrasses situées à 18 pieds au-dessous. Ces terrasses, couvertes d'un sable fin, étaient bordées de grands arbres dont le feuillage venait ombrager les balcons. Gilbert déchira sa longue robe en 3 morceaux qu'il attacha bout à bout, déposa sur la table le chapeau, près du chapeau la bourse, et écrivit « Madame, le premier des biens est la liberté, le plus saint des devoirs de l'homme est de la conserver. Vous me violentez, je m'affranchis. » Signé Gilbert. Gilbert plia la lettre, la mit à l'adresse de Mademoiselle Chon, attacha ses 12 pieds de serge au barreau de la fenêtre, entre lesquels il glissa comme une couleuvre, sauta sur la terrasse au risque de sa vie, quand il fut au bout de la corde, et alors, quoiqu'un peu étourdi du saut qu'il venait de faire, il courut aux arbres, se cramponna aux branches, glissa sous les feuillages comme un écureuil, arriva au sol et à toutes jambes disparut dans la direction des bois de Ville-d'Avray. Lorsque, au bout d'une demi-heure, on revint pour le chercher, il était déjà loin de toute atteinte.